Bien, est-ce que tout le monde me voit quand même? Parce que, bon, je ne suis pas jaloux hein, de Saint-Nicolas qui est très éclairé, mais bon. Alors, ce soir, chers frères et sœurs, nous fêtons un saint, Saint-Nicolas. C'est important pour notre paroisse, ce saint, vous voyez. Il nous a été donné. Et fêter un saint, c'est toujours fêter la proximité de Dieu. Voyez, Dieu n'est pas venu en un temps, il y a 2000 ans, et puis après, c'est terminé. Il faut vivre de foi, c'est tout, et vous n'avez aucune trace de lui. Au contraire, Dieu aime prolonger sa venue à travers les saints. Il aime déployer son message, sa parole à travers la figure des saints. Donc, voyez, les saints, chaque saint, une petite Thérèse, un saint Nicolas, c'est comme l'évangile actualisé, l'évangile qui se rend proche. Et la vie de Dieu, la puissance de Dieu qui est toujours actuelle. Une puissance de guérison, une puissance de consolation. Vous voyez, certains ont été surpris parce que Jean-Paul II a été béatifié très rapidement. Mais c'est parce qu'il faut qu'on comprenne cette proximité. Celui que j'ai connu, que j'ai vu à la télévision, que j'ai vu, je ne sais pas moi, à Paris en 97 par exemple, eh bien aujourd'hui, il est au ciel. Et donc on peut dire que beaucoup d'entre nous ont connu des saints vivants. Vous voyez, parce que sinon c'est très très lointain tout ça. Bon. D'ailleurs nous côtoyons des saints. On sent bien des fois certaines personnes, il ne faut pas leur dire, mais bon. Alors, non, parce que ça ne les aide pas. Bon. Alors, la deuxième chose, c'est que fêter un saint, c'est comprendre pour nous que la sainteté est possible. Je pense à Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est docteur de l'Église. Alors, docteur de l'Église, ça veut dire qu'elle a des choses à nous apprendre, à nous enseigner aujourd'hui. Et vous savez que Thérèse de Lisieux disait « J'ai toujours désiré être une sainte ». Alors, elle dit ceci dans son manuscrit, par obéissance, elle a écrit sa vie, bon. Et elle dit ceci « Je pensais que j'étais née pour la gloire. » Le bon Dieu me fit comprendre aussi que ma gloire à moi ne paraîtrait pas aux yeux des mortels. Elle comprend qu'elle est faite pour la sainteté, mais ça sera caché. Cette gloire qu'elle consisterait à devenir une grande sainte. Ce désir pourrait sembler téméraire si l'on considère combien j'étais faible et imparfaite. Et combien je le suis encore après 7 années passées en clôture. Cependant, je sens toujours la même confiance audacieuse de devenir une grande sainte. Car je ne compte pas sur mes mérites, n'en ayant aucun, mais j'espère en celui qui est la vertu, la sainteté même. C'est lui seul qui, se contentant de mes faibles efforts, m'élèvera jusqu'à lui. Qu'on a chanté tout à l'heure. Dieu est venu jusqu'à nous pour que nous allions jusqu'à lui. Et me couvrant de ses mérites infinis, me fera sainte. Je ne pensais pas alors qu'il fallait beaucoup souffrir pour arriver à la sainteté. Voilà, alors vous voyez, peut-être que certains d'entre nous doutent de leur capacité à accueillir la grâce de Dieu, à être sainte ou saint. Peut-être que certains parmi nous désirent avoir un petit strapontin au purgatoire. Je ne fais pas de vague, je suis au fond, je suis rentré dans la pièce et je suis sauvé. Mais bon, je n'ai pas de grand désir, vous comprenez, moi, je suis humble. Non, ce n'est pas ça. L'humilité pour un baptisé, c'est de désirer la sainteté, c'est-à-dire ce pour quoi il est fait. Voilà, Catherine de Gênes, en parlant du purgatoire et du paradis, disait « Le paradis n'a pas de porte ». Le paradis n'a pas de porte. Si nous désirons aller au paradis, nous irons au paradis. Au ciel, nous allons là où nous désirons aller. La question, c'est que peut-être qu'on ne désire pas tellement le ciel. On désire un strapontin. Bon, là, à ce moment-là, on aura un strapontin. Bon. Alors, voyez, par exemple, il y a un prêtre qui écrit à Sainte Thérèse et qui lui dit, bon, écoutez, moi, je vais peut-être... Il était missionnaire, alors il dit, il est possible que ça tourne mal et que j'aille pas tout de suite au ciel, donc vous irez me chercher au purgatoire. Vous voyez, une sorte d'amitié spirituelle. Et alors, Thérèse dit, Je ne comprends pas, mon frère, que vous paraissiez douter de votre entrée immédiate au ciel. La perfection me semble facile. Je vois qu'il suffit de reconnaître son néant et de s'abandonner comme un enfant dans les bras du bon Dieu. Il ne désirait pas le ciel, je ne sais pas. Bon, il doutait. Bon, non, il faut s'abandonner. Alors, quelle est la sainteté de Saint Nicolas ? Saint Nicolas, en quoi est-il imitable ? Nicolas est un homme du IIIe siècle qui est né en Asie mineure, qui est la région de la Turquie, de la Grèce, et qui est né dans un contexte de persécution, Nicolas. Il faut savoir que les chrétiens à l'époque sont quand même nombreux, mais la religion n'est pas encore officielle, et donc ils vont vivre dans la clandestinité. Voilà. Et puis au fur et à mesure, les choses vont quand même se pacifier. Alors ce qui est marrant, c'est que les parents, vous voyez, ont donné à leur enfant ce nom de Nicolas, et Nicolas, ça veut dire « victoire du peuple de Dieu ». Victoire du peuple de Dieu. Vous voyez, c'est comme une confession de foi. Hein. Vous donnez ce prénom à votre enfant, Nicolas. C'est l'espérance. Et ses parents vont mourir assez jeunes, ce qui fait qu'il va hériter de leur fortune. Et cette fortune, chez Nicolas, a permis d'aider pas mal de personnes. Voilà, il a su mettre ses biens au service des autres. Alors, on raconte cet épisode que vous connaissez peut-être. Il y avait trois jeunes filles qui était à l'âge de se marier. Vous savez qu'à l'époque, pour se marier, il fallait avoir une dot. Et voilà que ce papa, eh bien, n'avait pas d'argent. Donc il a dit, qu'est-ce que je peux faire ? À ce moment-là, vous les donnez à quelqu'un, un patron, un peu en esclavage. Et elles ne peuvent pas avoir un époux, ce n'est pas possible. Elles vont se mettre au service de quelqu'un ou dans la prostitution. Bon, bref. Et alors Saint-Nicolas a su ça. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a déposé trois bourses pour ses femmes, pour qu'elles puissent se marier. Et il a demandé à ce que cela soit fait dans le secret. Alors il est fort possible, vous voyez, que Saint Nicolas, devenant un petit peu le Père Noël, souvent on a une image de celui qui donne des cadeaux, et bien peut-être que le fait de donner des cadeaux vient de ce geste-là de Saint Nicolas. C'est fort possible. Donc vous voyez, il veut faire les choses en secret, et il fait des gestes d'amour. Là c'est très concret, c'est matériel. Après, Saint-Nicolas grandit, il a été nommé évêque de Myre. Hein? Alors, Myre, c'est pareil, c'est cette région-là d'Asie mineure. Alors, évêque, il faut savoir qu'à l'époque, ça a été un petit peu la foule qui, voyant la bonté de cet homme-là, à l'époque, il était laïque, a dit, mais on veut qu'il soit évêque, on veut qu'il soit évêque. Du coup, lui l'a accepté, mais au départ, il ne voulait pas. Il ne voulait pas être évêque par humilité. C'est saint Ambroise qui le dit. Non, saint Bonaventure, pardon. Il ne voulait pas être évêque. Vous voyez, c'est cette humilité toujours chez Nicolas. Hein. C'est vrai que quand vous donnez une charge, c'est toujours bien de la donner à celui qui n'en veut pas. Comme ça, vous êtes sûr qu'il ne va pas se l'approprier. Bon. Alors voilà. Et puis, saint Nicolas, c'est quelqu'un qui vit dans la confiance. Alors par exemple, à un moment donné, je vous raconte encore un épisode. Il y a un bateau qui arrive à Myre, le lieu où il habite, là. Et le problème de cette ville, c'est qu'elle est en temps de famine. Et alors, il dit à ceux qui pilotent ce bateau, écoutez, il faut nous donner des vivres. On est là et on manque de nourriture. Alors ça, c'est intéressant. Hein, la persuasion des saints. Parce qu'il faut savoir que les gens, donc aller, le Myre, c'était simplement un lieu de passage, ils ont accepté de donner eh bien, une partie de leurs vivres. Quand vous êtes un saint, je ne sais pas pourquoi, mais vous obtenez ce que vous voulez. Une sorte de... le père Brottier, par exemple, pareil, lui. Bon. Notre fondateur, nous, de l'Emmanuel, Pierre Goursaz, pareil, il avait une certaine facilité à obtenir les choses qu'il voulait. Bon. Bref, et le bateau est arrivé au port, après, là, la fin de la course, et en ouvrant la cale, eh bien, il était à nouveau plein. Vous voyez, donc en donnant, les gens n'ont rien perdu. C'est étonnant, miracle. Voilà, alors je retiens peut-être chez Nicolas, vous voyez, deux qualités qui sont l'amour, la préoccupation des gens qui ont faim, qui ne peuvent pas se marier là, voilà. Et puis l'humilité, la discrétion. Par exemple, il a participé au concile de Nicée, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Pourtant, il était dedans. Bon. Humilité et amour. Pourquoi c'est intéressant ces deux qualités ? Parce que nous irons au ciel que si nous sommes pleins d'amour et pleins d'humilité. La première épître de Jean le dit, au ciel, nous lui serons semblables, nous le verrons tel qu'il est. Nous lui serons semblables, nous le verrons tel qu'il est. Comment est Dieu ? Pour être avec Dieu, il faut être comme Dieu. Et Dieu est tout amour, Dieu est amour. Et Dieu est l'humilité même. Alors Dieu est amour, c'est-à-dire que Dieu, vous savez, est Trinité, Dieu est un mystère d'amour. Dieu, à travers Jésus, aime ses ennemis. Et ce qui fait que Jean de la Croix disait « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. » C'est simple. Voilà. Et donc, dès cette terre, nous ouvrons notre capacité pour aimer. Alors, aimer, ce n'est pas sentir forcément l'amour. Jésus dit, quand il est à Gethsémani, « Mon âme est triste à en mourir. » Mon âme est triste à en mourir, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas. Il ne faut pas confondre, voyez, le sentiment amoureux et l'amour. Ce n'est pas parce que je regarde, je ne sais pas quoi, moi, le film « Des dieux et des hommes », par exemple, vous savez, les moines de Tibérine, que je suis saisi d'amour pour Dieu, que j'aime. J'aime quand je pose des actes d'amour. Nicolas, il posait des actes d'amour, très concrets. Bon, je dis ça parce que... on peut, des fois, vous voyez, confier beaucoup de choses à Dieu. Alors, on fait beaucoup de pèlerinages, vous voyez, on va à droite, à gauche. On prend des tas de cours de théologie, tout ça. Mais le Seigneur nous dit, tout ce que je te donne, tous ces pèlerinages, ces cours de théologie, c'est pour aimer ton frère. C'est pour passer la serpillière, je ne sais pas, ranger ta chambre, la chambre de ton frère. Non. Descendre les poubelles, pardonner... préparer à manger, être là le soir, voilà, c'est des choses très simples. Bon. La deuxième chose, c'est que Dieu est humble. Alors, l'humilité, c'est quoi ? L'humilité, c'est la vérité. Donc, quelqu'un qui dit « je suis nul, je ne vaux rien », ça, c'est pas quelqu'un qui est humble. Ça, c'est quelqu'un qui se méprise, qui ne s'aime pas. Mais l'humilité, c'est être à sa place. Bon, alors, Dieu est tout, on n'est rien, ça, c'est vrai. Bon. Mais en Dieu, si vous voulez, il y a comme un excès dans cette humilité, c'est-à-dire qu'il est à sa place et il descend de sa place. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il était égal à Dieu, mais il va s'anéantir. Il va laver les pieds de ses disciples. Il va se faire serviteur. Mais ce n'est pas lui qui est le serviteur, c'est nous qui devons le servir. Ce que dit Marie, je suis la servante du Seigneur. Non, il inverse. Voilà, l'humilité, c'est ça. Pourquoi ? Parce que notre péché, eh bien, est un péché d'orgueil, bien sûr, mais parce que Dieu en lui-même est un mystère d'humilité, c'est-à-dire que, comme il le dit, je ne fais rien de moi-même. Vous voyez ? Bon. Alors, du coup, vous voyez, eh bien, au ciel, nous serons au ciel si nous sommes vraiment humbles, si nous ne sommes pas orgueilleux. Et c'est pour ça que Jésus dit que les publicains et les prostituées nous précèdent dans le royaume des cieux. Pourquoi une prostituée peut me précéder dans le royaume des cieux ? Parce qu'elle a une certaine humilité. Elle est passée par des humiliations, forcément, qui ont abîmé sa féminité. Elle n'a plus d'orgueil et donc elle n'a rien. Elle sait qu'elle doit tout à Dieu si elle est sauvée. Vous voyez, pour un prêtre, c'est plus difficile d'aller au ciel. Jésus n'a pas dit « les prêtres vous précèdent dans le royaume des cieux ». Il a dit « les prostituées ». Parce qu'un prêtre, il peut faire du bien, mais il peut avoir beaucoup d'honneur. Bon. Et alors, c'est vrai que l'humilité, vous voyez, chez la prostituée, va passer par la souffrance. Hein ? Ce qui veut dire aussi que pour nous, voyez, l'humilité passera aussi par nos souffrances. C'est intéressant ce qu'a dit Thérèse. Elle dit « je veux être sainte » et elle dit « je ne pensais pas alors qu'il fallait beaucoup souffrir pour arriver à la sainteté. » Je ne pensais pas qu'il fallait aller alors beaucoup souffrir pour arriver à la sainteté. Ce que dit Jésus, hein, « ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans la gloire ?» Quand je serai élevé de terre, quand je serai souffrant sur la croix, j'attirerai à moi tous les hommes. Alors, pourquoi la souffrance, voyez, nous permet d'être humbles? Parce que le fait, voyez, de recevoir sa vie, de que les choses ne se passent pas comme on voudrait, de vivre des contrariétés, on a, je ne sais pas quoi, notre adolescent qui pète les plombs, mais ça, c'est une souffrance, ça. On a un époux qui est parti, mais ça, c'est une souffrance, voyez. Et alors, vous voyez, soit je suis là et puis je me dis, mais c'est une autre vie que je veux. Alors je vais, je ne sais pas très bien, je vais essayer par exemple de combler ce manque par quelque chose de pas très juste, alors que des fois le Seigneur me dit, écoute, dans cette situation-là, il faut pas que tu l'engendres, il faut que tu la reçoives. Et je pense, j'étais chez Marthe Robin, là, à Châteauneuf-de-Galaure, il y a quelques jours, elle est devenue une sainte en étant simplement sur un lit et en vivant sa maladie. Et des fois, le Seigneur, voyez, il nous enlève telle ou telle souffrance pour nous donner davantage. Et des fois, le Seigneur, eh bien, il nous laisse avec telle contrariété, telle souffrance. Nous avions hier soir Bruno et Brigitte Durand. Voyez, elle est atteinte d'une sclérose en plaques. Ils se sont mariés comme ça. Et j'ai été étonné par leur humilité. Parce qu'on était vachement à l'aise avec eux. Ils étaient simples, ils étaient rayonnants. Et je me dis, ben, peut-être que, voyez, cette souffrance, cette maladie qu'ils ont acceptée, eux, parce qu'ils en témoignent, eh bien, est pour eux leur chemin de sainteté. Alors, ça ne veut pas dire parce que je souffre, je deviens humble et saint. Le bon larron, il est à côté d'un autre larron qui souffre aussi. Vous voyez, ce n'est pas la souffrance qui nous permet d'aller au ciel, c'est l'humilité. Et l'humilité, c'est comme ce qui nous est donné pour, la souffrance, pardon, c'est ce qui nous est donné parfois pour devenir humble et petit. Voilà, alors n'ayons pas peur du ciel. Nous connaissons, voyez, j'ai envie de dire l'examinateur, vous savez, c'est un passage le ciel. Il y a un examinateur, c'est Dieu lui-même. Il est bon, doux, humble de cœur. Et l'examen, on le connaît, c'est l'humilité et l'amour. Nous n'avons pas à faire de grandes choses. Il n'y a pas beaucoup de sages parmi vous, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de gens bien nés. Mais voilà ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Dieu choisit des pauvres, hein, des petits. Voilà. Au soir de notre vie, nous arriverons avec peu de choses, mais simplement l'œuvre de Dieu gravée sur notre cœur. Et c'est pour ça que Jésus dit, voilà, « Quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu en petit enfant n'y entrera pas. » Un petit enfant, c'est quelqu'un qui vit que d'amour et d'humilité. Petit enfant, il ne se regarde pas, un petit enfant. Il est là, dans la salle d'attente du dentiste, il fait youyou, il prend les journaux, il les jette un peu partout. Il ne se regarde pas, il n'a pas de repli sur lui-même. Il est profondément humble, et petit à petit, il va devenir orgueilleux, il va comprendre qu'il faut qu'il existe, qu'il ait une fonction, qu'il ait des honneurs, tout ça. Et vous voyez, l'enfant, c'est le modèle de la simplicité, de l'humilité, de l'amour. Voilà, alors ce soir, on va recevoir la manne. C'est cette huile, cette eau miraculeuse qui coule du tombeau de Saint-Nicolas. Alors, le tombeau de Saint-Nicolas est à Bari. Il était à l'époque à Myre, et puis il y a eu des invasions, tout ça. On a protégé le tombeau en le mettant à Myre, au sud de l'Italie, à Bari, pardon, au sud de l'Italie. Et c'est un tombeau où, de manière assez miraculeuse, suinte une huile, une eau, parce que c'est plus une eau qui est chargée de matière organique, voyez, liée aux ossements, hein. C'est un miracle. Vous avez des icônes qui suintent, vous avez plusieurs tombeaux qui suintent de l'huile. Alors peut-être, voyez, qu'on peut demander, je dis ça, après chacun demande ce qu'il veut, bien sûr, mais dans cette onction que les prêtres vont faire en disant sur chacun d'entre nous que Saint Nicolas vous protège et vous bénisse, peut-être qu'on peut demander le gros lot. Ben oui, il faut demander le gros lot. Donc le gros lot, c'est que je sois un saint, une sainte. Voilà, le plus gros, bon, évidemment. Alors, cette huile, tout le monde peut la recevoir. Pas besoin de rien du tout, hein, d'accord. Voilà, c'est vrai que son efficacité va dépendre surtout de notre foi. Hein, ce n'est pas magique, ce n'est pas un sacrement. C'est ce qu'on appelle un sacramental, c'est-à-dire quelque chose qui nous dispose à recevoir la grâce de Dieu. Alors demandons, voyez, le Seigneur nous dit « Demandez, vous recevrez ». Il ne nous dit pas forcément ce qu'on va recevoir d'ailleurs, mais il nous dit « Demandez ». Peut-être qu'en demandant, c'est intéressant dans l'Évangile, C'est une homélie longue, hein, mais ça s'arrête là. Dans l'évangile, vous savez, quand on a un problème, c'est assez intéressant la manière de demander. Vous voyez, Marie, par exemple, elle dit à Jésus, ils n'ont pas de vin. Elle ne dit pas, fais un miracle, multiplie les six jars. Pareil, à propos de Lazare, celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Ce n'est pas, viens le guérir ou je ne sais pas quoi. Celui que tu aimes est malade. Donc peut-être qu'on peut présenter, vous voyez, si on a une difficulté profonde, une souffrance, et qu'on pense voilà, qu'elle est révoltante et qu'il faut que ça change et qu'elle n'est pas du tout un chemin de salut. Là. Bon. Eh bien, présentez cette situation-là. Seigneur, tu vois ma situation. Eh bien, je te demande dans cette situation-là que je n'ai pas choisie, que tu viennes faire quelque chose, ce que tu veux, pour mon salut et pour que je sois une sainte, un saint. Et Dieu forcément nous exaucera, parce que Dieu exauce toujours les demandes qui sont faites en son nom. Amen.